messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette.
Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, dans la matinale, nous allons parler PQR. Qu'est-ce que la PQR? La presse quotidienne régionale. On en parle juste après avec mon invité.
Regardez-moi, voyons, la tête aux sandales, j'ai tout pour faire, une vedette internationale.
Oriane Martin, chef d'édition de l'Oise, qui sera mon invité ce matin. Bonjour Oriane. Bienvenue sur notre antenne, on va parler de la PQR, on va parler du journalisme. Pour commencer, qu'est-ce que la PQR, pour simplifier, pour le grand public?
Alors la PQR, c'est donc la presse quotidienne régionale. C'est donc un journal qui sort tous les jours et qui en général est implanté sur une région ou plusieurs départements. Donc nous, on est implanté sur l'ancienne région Picardie, la Somme, l'Oise et l'Aisne.
Alors vous êtes chef d'édition, qu'est-ce que c'est chef d'édition? C'est quoi la différence entre une journaliste lambda et une chef d'édition?
Alors je reste d'abord journaliste et en plus donc, je gère le contenu de cette édition de l'Oise qui couvre l'intégralité du département. Le chef d'édition en fait c'est lui qui va mettre en musique ce qu'on appelle la ligne éditoriale du journal. Donc nous, notre fonds de commerce, c'est qu'on est de la presse généraliste. Et du coup, il faut qu'on s'intéresse au plus de sujets possibles qui concernent la vie des gens. Et donc moi, je mets un peu tout ça en musique. Il y a 10 journalistes dans l'édition de l'Oise et plusieurs correspondants, une vingtaine à peu près.
On va revenir un peu sur le fonctionnement de la presse en général. Mais avant, on va parler un petit peu de vous. Ça fait un peu plus de 14 ans que vous êtes au Courrier Picard. Vous avez fait du coup l'IUT de Tours en journalisme. Comment est venue l'idée de devenir journaliste? À quel moment ça a germé cette petite idée d'être journaliste?
Alors, ma maman dit que j'ai toujours eu envie d'être journaliste. Voilà. Quand j'étais au collège, en fait, j'étais assez fascinée par les émissions de Nicolas Hulot, qui donc à l'époque ça s'appelait Ushuaïa. Et quand je le voyais, je me disais ah mais moi c'est ça que je veux faire en fait. Je veux aller montrer la beauté du monde, voyager. Bon, il s'avère que finalement je ne voyage pas beaucoup, que mon projet professionnel il a évolué au fur et à mesure où j'ai grandi. J'ai un petit peu hésité et puis finalement quand est venu le moment de choisir mes études, voilà, je me suis dit que je voulais aller là.
Alors vous avez un peu voyagé puisque vous avez fait un DUG en Normandie, à Caen, ensuite l'IUT de Tours, donc voilà déjà un peu de voyage entre les régions. Le DUT information communication avec l'option journaliste, c'est quoi le DUT communication? C'est quoi la différence entre le journalisme et la communication?
Ah, ça c'est la plus vaste question. Alors, l'essentiel du journalisme, c'est que nous, on relate des faits, des informations qu'on a auparavant vérifiées. La communication va avoir tendance à essayer d'embellir un peu un sujet. Si par exemple, je travaille dans une entreprise et que j'ai envie de faire valoir le savoir-faire, ce qu'on fait, c'est bien, c'est nous les meilleurs, etc. Ça va être de la communication. Le journaliste, lui, il va confronter des points de vue qui sont parfois différents, qui s'opposent. Voilà, je pense que la différence fondamentale, elle est là. On apprend à parler de faits et de faits qui sont avérés.
Alors avec nous, on a les collégiens de Breteuil qui sont avec nous pour une émission. Vous pouvez vous applaudir si vous voulez pour qu'on puisse vous entendre, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début de cette émission, mais cette émission est enregistrée au bord de l'eau aujourd'hui en compagnie de collégiens. Ils auront des questions à vous poser. Quand vous étiez au collège, vous étiez quel type d'élève? Vous étiez bon élève? Il y avait des matières... on a des profs de maths avec nous. Est-ce que vous étiez bonne en maths?
Non. J'étais une bonne élève. J'aimais pas trop les maths. Voilà.
C'était quoi les matières de prédilection?
J'aimais bien les langues vivantes, le français. Enfin, je m'intéressais à tout et je pense que c'est aussi un atout après quand on veut choisir d'être journaliste, en particulier dans la PQR. C'est qu'il faut...
Là, sur l'option journaliste, vous l'avez dit, vous êtes arrivé un petit peu plus tard sur la PQR, sur la presse écrite. C'était quoi les options qui étaient présentées au départ? Il y avait déjà la radio, il y avait déjà l'image, le journalisme?
Alors
vidéo,
moi, j'ai fait une école de journalisme, donc on apprend tout. On apprend à faire de l'image, de la photo, de la radio, de la télé. Donc j'ai une formation sur la première année qui est généraliste. Et puis après, en deuxième année, alors ça a sans doute changé parce que je suis presque une vieille journaliste aujourd'hui. Le fonctionnement reste cependant le même. Et aujourd'hui, la plupart des élèves des écoles de journalisme viennent faire leur stage de première année entre la première et la deuxième en PQR, parce que je pense qu'on leur apprend la base du métier en fait.
C'est quoi la différence entre la PQR? C'est quoi le fait de faire un journal quotidiennement ou de faire un journal hebdomadaire comme par exemple l'Oise Hebdo? Est-ce qu'il y a une différence? Vous devez être beaucoup plus dans l'instantanéité. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, tout ça.
Alors nous, c'est qu'on remet notre métier sur notre ouvrage, pardon, sur le métier tous les jours. Tous les matins, on part d'une page blanche. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal de demain? Un hebdomadaire, bah forcément, ça va être qu'une seule fois par semaine. Donc ça veut dire que dans le rythme de travail, dans la rédaction, c'est différent. Enfin, c'était différent jusqu'à ce qu'Internet devienne aujourd'hui le média essentiel d'information. Et on est, que ce soit Oise Hebdo ou les autres hebdomadaires ou nous, Courrier Picard, dans l'instantanéité, il faut donner l'information tout de suite. Dès qu'elle est vérifiée, j'insiste beaucoup là-dessus.
On parlera de la vérification, l'éducation aux médias, tout ça. On a travaillé un petit peu avec ça avec les élèves. Mais en 14 ans, comment le métier a changé? En 14 ans, du coup, Internet s'est beaucoup développé. On a maintenant des smartphones, on peut vérifier des informations assez rapidement. Pour vous, comment ça a changé?
Alors déjà, je suis journaliste depuis 20 ans. C'est pour ça que je peux me permettre de me dire que je suis un peu vieille. Moi, quand j'ai commencé le métier, donc Internet en était vraiment à ses balbutiements puisque j'ai commencé à travailler en 2000. C'était vraiment, on se disait que peut-être ça allait marcher. Mais dans les journaux quotidiens régionaux comme le Courrier Picard, on n'y était pas du tout. Et on avait encore des appareils argentiques. On développait nous-mêmes nos pellicules dans un labo photo. On envoyait ensuite tout ça au siège à Amiens, même quand on était dans des locales détachés. Donc le rythme n'était déjà pas le même. Il y a eu une accélération technologique là, ces dernières années qui est assez fulgurante. Effectivement, aujourd'hui, moi, je travaille avec mon smartphone pour faire la vidéo, pour faire des photos, éventuellement de la prise de notes. On voyage un petit peu plus léger qu'avant.
Il y a donc des métiers qui ont disparu, le métier de photo-reporter, le journaliste qui fait que de la photo, ça a disparu. Vous en avez encore à l'agence ou dans le Courrier Picard?
On en a encore deux au Courrier Picard.
Qui sont à Amiens, c'est ça?
Qui sont basés à Amiens, mais qui rayonnent sur l'ensemble de la région. Ça devient une denrée rare dans les journaux. Mais on en a encore besoin.
Comment vous faites? C'est Amiens qui vous dit il y a un événement particulier, je vous envoie les photos aux journalistes, ou c'est vous qui demandez, vous dites là c'est un intérêt régional, envoyez-nous quelqu'un pour faire des photos?
C'est nous qui demandons en général, ça peut être aussi sur proposition de la rédaction en chef. L'intérêt, ça va être de faire déplacer un photographe si on pense qu'on ne pourra pas tout faire. Le journaliste de PQR, il écrit, il prend des notes, il fait des photos, il fait des vidéos. Et parfois, c'est un petit peu compliqué d'être sur tous les fronts. Donc, on a besoin d'avoir des photographes qui viennent en renfort. Comme ça, eux vont s'occuper de l'image et nous, on va s'occuper du texte. Ça peut être aussi des sujets sur lesquels on veut garder des archives, d'avoir des belles photos. Le chantier du canal Seine-Nord, par exemple, en ce moment, qui est au nord de Compiègne, c'est des photographes qui viennent faire les photos.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de journaliste? C'était le fait de marquer l'histoire, de laisser une trace dans l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'histoire, on va aux archives, on prend les journaux, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était le Progrès de l'Oise ou ce genre de choses, et on tombe sur des choses parfois assez rigolotes ou anachroniques. On a pu lire récemment que quelqu'un qui s'était suicidé sur la voie publique, son cadavre a été jugé pour être pendu par les pieds, alors que de toute façon, il était déjà mort, à peu près en 1900. Est-ce que vous, c'est un peu marquer l'histoire qui vous a intéressé dans le journalisme?
Alors pas du tout, non. Parce que j'avais pas du tout cette notion en tête. Déjà, moi, j'aime bien parler de la vie des gens de manière beaucoup plus égoïste. J'aime bien apprendre des choses tous les jours. Donc ça, le métier de journaliste, c'est quand même ce que ça me permet en particulier. Et puis, moi, j'aime bien me dire que je suis un rouage de la démocratie, plus que je vais marquer l'histoire avec mes articles. J'en sais rien et je vous avoue que je m'en fiche un peu, mais me dire que je donne aux gens les clés pour comprendre la société dans laquelle ils vivent, ça c'est quelque chose qui, avec le temps, et c'est pour ça que mon projet n'est plus d'aller voyager, est devenu vraiment le plus important.
C'est quoi les expériences que vous avez eues avant le Courrier Picard?
Que le Courrier Picard.
Picard. Il y a une école, du coup, est-ce que c'est une formation particulière? Alors, le Courrier Picard, on rappelle, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Rossel, qui est un groupe belge qui a Contact FM, qui a également Weo, qui a du coup le papier. Comment, c'est quoi? Il y a une patte Courrier Picard, il y a quelque chose. Alors, vous avez également l'aide nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe?
Aujourd'hui, Rossel, c'est tous les journaux du nord de la France, hein, de Paris-Normandie jusqu'à la Voix du Nord. Et à l'est, on va aussi en Champagne. L'Union de Reims, c'est aussi un journal du groupe Rossel. Est-ce qu'il y a une école Courrier Picard? Je ne sais pas. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a une grande liberté de travailler, d'envisager nos sujets, de mettre en avant ceux qui sont importants. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que, bah, même après 20 ans, je suis encore là, quoi.
C'est un fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire que les informations viennent d'Amiens, ça redescend en local ou pas du tout, c'est des échanges. Comment l'information est créée? Est-ce que vous avez une pression de votre hiérarchie ou peut-être du groupe même?
Alors, pas... Non. Un petit peu une pression économique. Pour en dire rapidement quelque chose sur la façon dont vivent les journaux, même si c'est un petit peu en dehors, mais ça va contribuer aussi à la façon dont on crée l'information. Un journal, aujourd'hui, en France, à quelques exceptions près, vit essentiellement de la publicité et des abonnements. Donc, nous, ce qui nous fait vivre, c'est que les gens nous achètent. Donc, on va évidemment avoir tout intérêt à choisir des sujets qui intéressent les gens. Sinon, ils ne nous achètent plus. Et donc, nous, notre survie est mise en péril. Est-ce qu'on a une pression de la rédaction en chef? Oui, sur certains sujets, mais ce n'est pas la règle. L'information, elle se construit d'aller-retour avec les journalistes qui travaillent sur le terrain, la rédaction en chef, moi qui fais l'intermédiaire entre la rédaction en chef et les équipes qui travaillent dans l'Oise. Ça va être des choses qu'on a entendues. En fait, elle vient de la base, l'information. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on vit, c'est ce que nous racontent les gens. C'est aussi des rendez-vous qui nous sont fixés par des mairies, des entreprises, etc. Puis on va un peu, on va faire notre tri. On ne peut pas tout traiter, on ne peut pas être partout. Ça met du temps de produire de l'information. Et puis, en fonction de l'intérêt que ça nous semble mériter, on va choisir où ça va dans le journal, parce que ça a une importance aussi. Plus c'est au début du journal, plus ça nous semble important. En tout cas pour les 15 premières pages du journal. Et puis, on va, en fonction aussi de l'information qu'on a, pouvoir traiter comme ça au quotidien ce qui se passe dans le département.
Alors, pour démystifier, vous n'avez pas vos ordres de la publicité. Ce n'est pas la publicité qui conditionne les articles qu'il va y avoir.
Non, ça peut poser des problèmes à la publicité, certains articles qu'on écrit, mais ce n'est pas la publicité qui nous donne des ordres.
Là, on va faire une courte pause musicale. On revient juste après avec un extrait d'un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle Papa Constantino. On écoute le titre Bricolo et l'album, c'est Premier Degré.
Je pense les noms et la vitesse, je vois couler l'eau. Que Cécile, elle pleure quand elle y pense. Piccolo, s'il plaît, je pense les noms et la vitesse, je vois couler l'eau. Que Cécile, elle.
On s'arrange avec ça, tu dois pas la vexer. Elle vient pas du vexin, elle fait des potions à base de ricin. Si elle avait lu le mot d'emploi, je connais les ficelles qu'elle déploie. Éveillez-moi, c'est une allure. On regarde un lever de nuit. Je n'ai jamais su l'approcher ta amateur. Quand son corps m'aiguille, je monte dans l'ascenseur.
Elle y pense, Piccolo, s'il plaît, je pense les noms. Et la vitesse, je vois couler l'eau. Que Cécile, elle pleure quand elle y pense, Piccolo, s'il plaît, je pense les noms. Et la vitesse, je vois couler l'eau. Que Cécile,
Radio Radiographite 94.9, www.graphite.net, c'est la matinale. On est ensemble pendant une heure. Aujourd'hui, on parle de presse, on parle de PQR, la presse quotidienne régionale. On est en compagnie d'Oriane Martin pour nous parler de son métier de chef d'édition au Courrier Picard à Compiègne. On est également en compagnie des collégiens du collège de Breteuil. Alors, c'est quel collège ? Alors, vous pouvez applaudir, et en plus, il y a un micro. Donc, on peut peut-être rappeler quel collège ? C'est quoi le nom du collège ?
Alors, le nom du collège, c'est le collège Compère-Morel de Breteuil.
Ok, très bien. Et c'est quelle classe ?
Et là, c'est les 5e B les meilleurs.
Alors, on avait une question du public. C'est vrai qu'on rappelle pour les auditeurs, en général, c'est dans le cadre d'un atelier pédagogique. On enregistre les émissions en public avec des collégiens. Il y avait une question, on peut peut-être prendre la première question ?
Bonjour, moi c'est Sofiane et je viens poser la question, comment se passe votre journée de travail ?
Alors c'est vrai, comment se déroule une journée de travail type chez un journaliste ? À quelle heure vous vous levez ? À quelle heure vous vous couchez ? Et à quel moment vous envoyez le journal à l'impression ?
Alors, il n'y a pas de journée type. J'aime bien quand on me pose ce genre de questions et avoir ce genre de réponses. Donc, il y a quand même une façon de faire qui est à peu près tous les jours la même. On fait une réunion de rédaction le matin, vers 9h45. C'est le moment où tous les journalistes de l'édition sont présents et on va essayer d'envisager ce qu'on met dans le journal du lendemain et ce qu'on va mettre sur le site internet tout au long de la journée pour l'animer. À cette réunion, on va décider de ce qui va dans quelle page. C'est-à-dire qu'on sait déjà, ça c'est important. Ça, on pense que c'est important si le reportage n'est pas déjà fait, mais on pense que ça vaut telle longueur d'article et qui sera à telle place dans le journal. Évidemment, en fonction de la façon dont se déroule la journée, ce programme sera modifié. Et on boucle nos éditions, nos pages de local à 20h. On peut aller un petit peu plus loin en fonction de l'actualité. Le journal, lui, boucle à 22h30. Et ensuite, on est imprimé à Lille et on est dans les boîtes à lettres de nos abonnés à 5h du matin. Donc entre les deux, il est imprimé, distribué depuis Lille.
Donc à 20h, vous clôturez à Compiègne, ensuite ça clôture à 22h à Amiens et c'est envoyé à l'impression, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Comment ça arrive quand il y a une information, quand il y a un fait divers qui arrive, quelque chose d'incroyable qui arrive à 19h55 ? C'est quoi ? C'est le branle-bas de combat ? Comment ça se passe chez vous ?
En fonction de l'actualité, c'est pour ça que je dis c'est en général 20h parce que si l'actualité le décide et c'est l'actualité qui décide de tout pour nous, on va modifier le programme. On a la possibilité d'aller jusqu'à 22h30. Après, c'est des horaires de bouclage qui sont donnés à titre indicatif pour faciliter le travail d'impression ensuite. Mais évidemment, on peut aller jusqu'à 22h30. Quand il y a des élections, quand il y a des matchs de foot, très important, les matchs de foot, on va au-delà de ces horaires en fonction de l'intérêt du match.
Comment ça se passe pour... c'est quoi les métiers qu'on retrouve au Courrier Picard ? Parce que là, on a parlé du métier de journaliste, métier de photoreporter Amiens, mais quels sont les gens qu'on retrouve qui font le métier ? Avant, il y avait les secrétaires de rédaction, les gens qui corrigent les fautes, ce genre de choses. Ça existe toujours, ces métiers-là ?
Il y a 20 ans, il y avait plus de métiers, je pense, au sein d'une rédaction qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel du journal est fabriqué par des journalistes. On est tous journalistes avec des missions différentes. Un photographe, c'est d'abord un journaliste. Aujourd'hui, on appelle éditeur ce que vous appelez secrétaire de rédaction. L'éditeur, c'est notre premier lecteur. C'est lui qui va lire nos articles en premier, qui va les corriger s'il y a des fautes dedans, qui va nous proposer des titres un peu plus attractifs s'il estime que le nôtre n'est pas bon. C'est lui qui va assurer l'édition, donc c'est-à-dire la mise en ligne et la mise en page d'un autre côté, puisqu'on travaille toujours sur les deux supports et ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur les deux supports.
Il y avait une question dans la salle sur les sources. Qui c'est qui pose la question sur les sources ?
Bonjour, moi c'est Lily Rose et ma question est comment choisissez-vous vos sources ?
Alors il va falloir que ce soit des gens de confiance d'abord. Un journaliste normalement parle de choses dont il a été témoin, mais on n'est pas toujours témoin de tout, on ne peut pas être partout. Le département de l'Oise est grand et nous ne sommes que 10, donc on va devoir choisir des gens de confiance. Je ne sais pas, moi, si on parle par exemple de l'atelier qui se déroule aujourd'hui, on va essayer de trouver des gens qui étaient présents à l'atelier pour qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vu. Et on ne va pas se contenter d'une seule personne parce que la personne ne se souviendra pas forcément de à quoi je ressemble, par exemple. Peut-être que Brian, en fait, il avait un t-shirt blanc alors qu'en vrai, il a un t-shirt noir. Donc, on va confronter comme ça un petit peu les opinions. La bonne source, c'est la personne qui est la première concernée par ce dont on va parler.
Pour les faits divers, vous faites comment? Alors, parce que si on prend le protagoniste, la police, la justice, la mairie, est-ce qu'il y a une hiérarchisation dans les sources? Est-ce que les informations officielles qui viennent de l'État, de la mairie ou des collectivités ont plus de poids que celles d'un habitant?
Bah oui, enfin non, enfin c'est compliqué en fait de répondre à cette question.
Ça dépend
en fait de ce dont on parle. Si on parle d'un accident sur la voie publique, on va autant écouter les gens qui sont témoins. Mais comme je viens de le dire, les témoins, ils ont parfois une perception qui est un petit peu biaisée, ou la mémoire leur a fait défaut et tout. Donc on va aller vers ce qu'on appelle nous des sources officielles. Donc sur des affaires judiciaires, il y a la police, mais il y a aussi le procureur de la République en général qui confirme ou pas en fonction de l'état d'avancement de l'enquête, puisque quand il y a enquête, là on marche un petit peu sur des œufs, on peut pas tout ne nous est pas forcément dévoilé, mais c'est aussi notre travail de journaliste de mener une enquête de notre côté et de confronter les informations qu'on a obtenues sur notre enquête de terrain à ce qui peut ressortir de l'enquête officielle.
Quelles sont les règles de publication quand on prend quelqu'un en photo dans la rue, dans une manifestation, et qui dit mon droit à l'image? Est-ce qu'il y a un droit à l'image quand on est dans une manifestation et qu'on veut pas que la presse nous prenne en photo?
Alors, le droit à l'image s'appliquera toujours pour les personnes qui sont mineures. Donc, dans les manifestations, nous, c'est un peu notre crainte. Les manifestations de lycéens, par exemple, c'est très difficile à photographier puisque la moitié des lycéens sont mineurs et normalement, on n'a pas le droit de diffuser leur image sans l'autorisation de leurs parents. Il y a ceci dit un droit qui est supérieur au droit à l'image qui s'appelle le droit à l'information et qui peut... Enfin, là, on entre dans des questions qui sont assez très juridiques et parfois très théoriques, mais on peut faire valoir le droit à l'information au-dessus du droit à l'image. Quand vous êtes dans une manifestation pour revendiquer, il est évident qu'il y aura des journalistes, il est évident que leur travail c'est d'informer. Il ne s'agit pas de faire des gros plans forcément sur des gens, mais bon voilà, on peut se trouver sur la photo. C'est un risque qu'on assume aussi.
Est-ce que vous avez peur en tant que journaliste quand vous sortez des informations, notamment, je sais pas, au tribunal? Est-ce que des fois c'est dangereux? Est-ce que vous protégez un peu votre vie privée?
Il peut arriver. On a une règle, nous, on donne le nom des gens lorsqu'ils sont condamnés à de la prison ferme. Donc la prison ferme, hein, c'est quand on va effectivement en prison, à la différence de la prison avec sursis. Donc c'est une règle qu'on s'est fixée. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas avoir leur nom dans le journal, qui peuvent être menaçants avec nous au tribunal. Ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à certains de nos confrères. Il y a aussi des situations de manifestation qui peuvent être assez sensibles. La crise des Gilets jaunes, ça n'a pas été de tourpeau pour les journalistes, y compris pour des journalistes de l'Oise qui se sont fait insulter et menacer sur des ronds-points.
C'est vrai qu'on parle, là du coup c'est vos règles que vous avez définies, c'est vrai qu'aujourd'hui les tribunaux, en fait le jugement est public, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller, donc même quand il y a du sursis, en fait on pourrait en principe mettre les noms et les prénoms.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est une règle que nous nous sommes fixée, qui est propre à chaque journal. Ce qui fait beaucoup évoluer les choses aussi, c'est Internet. Le droit à l'oubli, c'est aussi un droit des citoyens. Une fois qu'on est passé au tribunal et qu'on a purgé sa peine, est-ce que c'est normal que encore 2, 3, voire 10 ans après, le nom apparaisse encore sur les sites Internet? Donc, on nous demande régulièrement aussi d'enlever, d'anonymiser ces articles. Ce sont des demandes auxquelles on fait droit, tout à fait.
Et sur les photos, il me semble que vous n'avez pas le droit de prendre les prévenus avec des menottes.
Non. Parce que ça insuffle l'idée dans la tête des gens qui sont coupables. D'accord. Donc c'est une façon de préserver leur présomption d'innocence.
Une autre question dans le public, est-ce qu'il y a une question?
Bonjour, je m'appelle Juliette. Ma question, c'est êtes-vous bien payée?
Question,
alors si je dis non, je vais mal me faire voir par mon employeur.
C'est le moment de négocier. Hein.
Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que en fonction de du média dans lequel on travaille, on va pas être payé de la même manière. Il y a des journalistes qui en début de carrière gagnent 1500, 1700 euros, et puis il y a des journalistes qui sont très très bien payés, en particulier à la télé. Donc il y a des très très gros écarts de salaire entre des gens qui sont salariés dans un quotidien ou un hebdomadaire et des gens qui travaillent à la télé. Il y a aussi des différences entre les gens qui sont des salariés permanents et ce qu'on appelle des pigistes, qui sont des travailleurs plutôt précaires parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail et qui collaborent de manière épisodique avec des journaux. Donc c'est très très variable. Donc,
Est-ce que vous avez des primes suivant si vous avez un scoop, si vous faites une photo, si vous faites de la vidéo en plus de l'article? Est-ce que du coup il y a des choses comme ça qui s'ajoutent sur votre salaire?
Il y a des droits d'auteur pour les photos et notre présence sur Internet. On n'est pas payé au scoop. faudrait pas, je sais pas si ce serait une bonne idée. ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit en tant que salarié, quel que soit le nombre d'articles qu'on va produire dans un mois, où on a le même salaire quasiment à la fin du mois, ça aussi enlève un poids économique, ça évite une course absolument effrénée à la formation. Vite, il faudrait que je sorte quelque chose pour être mieux payé à la fin du mois.
Et d'un point de vue photo, c'est quoi ? Vous êtes payé à chaque photo ? C'est ça, c'est 5 euros quand il y a une photo qui est publiée ? Non, c'est pour les correspondants de presse, c'est ça ?
Oui, on est payé à la photo, mais ouais. C'est pareil, ça c'est assez particulier au Courrier Picard. C'est des accords qui ont été négociés il y a très longtemps par les représentants syndicaux. On est payé à la photo, on est payé pour utiliser un appareil photo aussi, puisque de base, ça ne faisait pas partie de nos missions.
Et pour les correspondants de presse, puisqu'on a parlé des journalistes, c'est un métier un petit peu à part. Ils ne sont pas vraiment journalistes, mais ils écrivent quand même des articles d'information qui sont souvent, supervisés par des journalistes professionnels. C'est quoi le métier de correspondant de presse qu'on peut voir des fois dans le Courrier Picard ? On recherche un correspondant sur Resson-sur-Main, par exemple.
Alors, un correspondant, c'est nos yeux et nos oreilles dans le département. Hein. On a dit, on est 10, le département est grand, on ne peut pas être partout. Donc, eux nous donnent des informations. Ils les écrivent. Ce n'est pas vraiment un métier. On n'est pas vraiment leur employeur. Enfin, ils ont un statut assez particulier. Ce ne sont pas des journalistes professionnels. Donc, ils écrivent, ils nous donnent des informations. Mais évidemment, tout est relu, supervisé, vérifié, réécrit par des journalistes professionnels pour s'assurer que c'est bien un article qui ne va pas contrevenir aux droits de la presse, ce genre de choses.
Là, aujourd'hui, les journalistes que vous avez, c'est quoi les types de journalistes que vous avez ? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes ? C'est quelle tranche d'âge ?
Alors, dans l'Oise en particulier, on est plutôt assez jeunes. On a une quarantaine d'années.
Ouais, qu'est-ce que c'est jeune ? Parce qu'on est avec des collégiens, on n'a pas tous la même notion de jeunesse.
Ils sont vieux. Donc les journalistes de l'Oise sont plutôt relativement jeunes. Nous, on est à peu près moitié homme, moitié femme, ce qui est à peu près assez représentatif de notre rédaction dans son ensemble. Le journaliste, c'est un métier qui se féminise. Avant, c'était un métier qui était essentiellement fait par des hommes. Aujourd'hui, c'est un métier qui est essentiellement exercé par des femmes. Et il y a de plus en plus de femmes dans nos rédactions.
Une question du public ?
Bonjour, je m'appelle Emeline et je voudrais savoir la moyenne de journaux vendus par jour dans l'Oise.
Dans l'Oise, alors on vend 7000 journaux papier. Mais évidemment, avec Internet, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le chiffre qu'on va regarder le plus. Les gens lisent de moins en moins les journaux, en tout cas sur le papier. Les gens consomment plus d'informations sur Internet aujourd'hui. Donc on sait que peu à peu, le papier probablement va finir par s'éteindre. Et puis que c'est les réseaux sociaux, Internet, etc., sur lesquels on continuera d'exister.
Sur les 7000 exemplaires par jour, c'est également les 10 exemplaires que la mairie a achetés, ce genre de choses, ou c'est que le public ?
La majorité de nos abonnés sont de vrais gens, des vrais abonnés. Les mairies, elles ont réduit les coûts, hein, donc il y a moins d'abonnements journaux aujourd'hui dans les institutions.
Et combien de lecteurs lisent un journal qui a été acheté une fois ? Avant, c'était 3, 4 lecteurs ?
Alors, c'est des statistiques qui sont assez anciennes que j'ai en tête, mais le Courrier Picard avait aussi cette spécificité qu'on était le journal que les gens se repassait le plus d'un voisin à un autre et on pouvait avoir 4 à 5 lecteurs par journal.
Et l'édition qui marche le mieux, c'est l'édition de la Côte, c'est ça ? C'est l'édition Picardie-Maritime ?
Amiens. Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait de son journal à la fin ? Est-ce qu'il y a un conseil écologique ? Comment on recycle son journal ? Est-ce que la traditionnelle litière de chat, ça marche toujours ?
Ça marche, il paraît. On vient nous le demander de temps en temps. Les écoles aussi nous demandent beaucoup de vieux journaux pour un certain nombre de projets d'art plastique. C'est pas mal aussi.
On va réécouter un extrait musical de la programmation de Graphite. On va écouter This is la peste avec le titre Abuseur.
Fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Elle poste plus vite que son nom. Nouvelle chose, nouveau sac, nouvelle veste, nouveaux ongles. Nouveau mec, nouvelle pote, nouveau taf chaque seconde. Quand elle est brune, qu'elle est rousse, qu'elle est bleue, qu'elle est blonde. C'est une abuseuse, une abuseuse. Une abuseuse, une abuseuse. Une abuseuse, une abuseuse. une aviseuse, une aviseuse. Je connais un mec qui a des tatous partout, mais quel est le but? C'est une carte, une énigme à trouver, c'est quoi le truc? La dernière fois, je le vois tranquille dans le bus, me parle de son projet de se tatouer l'anus. C'est un aviseur, 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 un aviseur. Fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Y'a toujours un mec qui abuse. Quand tu danses, pose ton verre. Et quand fait trop, quand fait trop. J'en connais un autre, c'est un tarté de muscu. Tout le temps à la salle, veut qu'on l'appelle Hercule. On travaille que les pecs, il a des jambes minuscules. Mais trois jogging sous ses jeans, c'est ridicule. C'est un aviseur, un aviseur. Un aviseur, un aviseur. Un aviseur, un aviseur. Un aviseur, un aviseur. Y'avait un mec au quartier muslim depuis 10 minutes. Ex-Kaira dit Inch'Allah toutes les 2 minutes. C'est laissé pousser la barbe, j'ai là-bas tout le truc. Mais peut dire dans la même phrase, Hamdoulaye, fils de pute, répond au phone à la mosquée. En t-shirt, quête mos, toujours son mini. Courant dans la banane, la cosse.
Ouais, c'est un
aviseur, un aviseur. Un aviseur, un aviseur. Comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre.
Y'a toujours un mec qui abuse.
Quand tu danses, pose ton verre.
Et quand fait trop, quand fait trop.
En soirée, j'ai vu des danseurs, des gros abuseurs qui smurf et qui break de 23h à 6h. Des gros transpireurs, des jamais arrêteurs qui dansent tout seuls sur la piste, qu'on pas peur. C'est des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Et ceux qui graillent, des gros abuseurs. Au McDo, c'est 3 menus, en best-of et 3 desserts. Salade, tomate, oignon, toutes les sauces, toutes les viandes. Bien sûr qu'il veut des frites, frérot, pourquoi tu demandes? C'est vas-y, rageux, andalouse, sultane. Vas-y, vas-y, Nutella, menthe, paprika, tout girofle. Fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre.
Y'a toujours un mec qui abuse.
Quand tu danses, pose ton verre.
Radio Graphite 94.9, www.graphite.net, retrouvez-nous également sur vos smartphones. On est toujours en public et au bord de l'eau pour le lancement de cette émission en direct. Vous pouvez applaudir, hein, n'hésitez pas. Avec le collège de Breteuil qui viennent assister à cette émission, on est toujours en compagnie de Dorian Martin, pour nous parler de la presse, hein, également de son métier de journaliste. Il y avait encore des questions de la part des collégiens, il y avait des questions notamment sur... on peut prendre peut-être la question qui était là ?
Qu'est-ce que vous aimiez et vous aimiez pas dans votre métier ?
La grande question. Hein.
Ouais. Alors déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup mon métier, mais comme je fais le métier que je voulais faire quand j'étais enfant, c'est peut-être un petit peu plus facile. Très intéressant, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est d'apprendre des choses, d'avoir le sentiment d'aider les gens à comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'avoir une espèce de sentiment d'utilité de temps en temps. Ce qui est peut-être un petit peu moins agréable, c'est que nos journées dépendent de l'actualité. Alors si l'actualité suit un rythme tout à fait tranquille et raisonnable, on va avoir des journées tout à fait tranquilles et raisonnables. Et puis bah, évidemment, parfois quand on part le matin, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler notre journée. Et il peut arriver qu'elle se termine très très tard. Donc ça, pour la vie de famille, parfois c'est un petit peu compliqué.
Il y a une différence en 20 ans de carrière, il y a une différence aujourd'hui. On parle beaucoup du fait que le public est un petit peu en défiance face à la presse, avec les chaînes d'information en continu, enfin plutôt en boucle, comme BFM TV ou ce genre de choses. Est-ce que vous le ressentez en local, cette défiance journalistique ?
Alors, il y a une défiance de la part des gens, puis il y a un rythme aussi qui nous est imposé par l'actualité, par Internet, par les chaînes d'infos en continu, si jamais l'Oise se trouve au cœur de l'actu nationale. C'est parfois difficile à supporter parce que on est toujours tiraillé à oui d'accord il faut sortir l'information mais il faut avant de la sortir avoir bien tout bordé, s'assurer que tout soit bien vérifié pour pas commencer à aller raconter des bêtises juste pour être les premiers à sortir une information. Il y a une grosse pression aujourd'hui et elle joue cette pression sur la défiance. Il y a des gens qui ne veulent pas nous parler parce qu'ils aiment pas les journalistes et on raconte que des bêtises et voilà.
Donc, on a peut-être une question par rapport à ça sur...
Bonjour, moi c'est Lola et c'est difficile d'avoir des témoignages.
Donc oui, parfois, c'est difficile d'avoir des témoignages. Il y a des gens qui ne veulent pas nous parler, vont être aussi très méfiants. Il va falloir qu'on leur prouve qu'ils peuvent avoir confiance en nous, en fait. Donc ça, c'est parfois le plus difficile, sans qu'ils relisent l'article et qu'ils nous disent « Ah ben non, mais j'ai pas dit ça tout à fait comme ça ». Donc ça, c'est assez compliqué. Je n'ai pas forcément le sentiment que ça soit de pire en pire, mais ça existe, ça existe.
Vous parlez tout à l'heure des gens qui livraient les journaux le matin. On a une question à ce sujet. On peut poser la question, puisque c'est vrai que le journal arrive avant la poste, avant que la poste soit levée. Comment on fait? Et surtout, la question qui était posée, c'était la question ici.
Bonjour, moi c'est Naya. Ma question est-ce difficile de trouver des gens pour livrer les journaux?
C'est des colporteurs, c'est ça ?
Des vendeurs colporteurs de presse. C'est aujourd'hui un de nos plus gros problèmes. Ce qui fait que le journal papier existe, c'est aussi parce qu'il est très tôt dans les boîtes des abonnés. Nous, nos abonnés sont importants. Ils représentent la plus grosse partie de nos lecteurs. Et c'est très difficile d'en trouver. C'est très difficile d'en trouver parce qu'il faut travailler tous les jours, en fait, autant de fois que le journal sort dans l'année. Donc nous, on n'a plus que 4 non-parutions dans l'année. C'est difficile parce que les prix de l'essence ont beaucoup augmenté, parce qu'il y a de moins en moins d'abonnés. Donc les tournées sont de plus en plus longues. Donc c'est un très, très gros problème. Alors, je passe un appel. Si vous voulez livrer le courrier Picard, appelez-nous. On vous indiquera qui joindre pour postuler. On en a vraiment besoin.
C'est vrai que là, on parlait c'est de 7 jours sur 7. Hein. Le journal, il est édition du lundi au dimanche. Quels sont les 4 jours qui sont chômés? Alors, j'imagine le 1er mai, le 1er janvier. Mais quels sont les autres?
Et l'autre, il y a le 15 août. Et puis, j'ai un trou. Il y a le 1er janvier, le 1er mai, le 15 août. Ah, on n'a peut-être plus qu'à 3.
Ah, c'est le moment de négocier alors.
Ouais. Non, on sort de plus en plus souvent. Ouais.
Et les éditions sur le numérique, aujourd'hui, c'est une grosse part de lecteurs. Est-ce que c'est quoi le type de public? C'est un public âgé? C'est un public... Est-ce que les jeunes, les lycéens, les collégiens, est-ce qu'ils lisent la presse?
Le profil de nos lecteurs, en fait, il n'a pas beaucoup évolué. Il est peut-être un tout petit peu plus jeune sur Internet, mais on est plutôt sur un public assez adulte, au-dessus de 40 ans largement. Après, ça dépend par quel biais on les touche. Si on les touche par les réseaux sociaux, on va peut-être toucher des gens plus jeunes. On est présent sur Internet, mais on est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram. On a créé une chaîne TikTok. Donc on commence aussi à essayer de s'approcher des jeunes lecteurs. Hein. C'est eux notre avenir. Notre journal papier distribué chez une personne qui aurait plus de 70 ans, bon, voilà, on sait qu'un jour ça se terminera, quoi.
Là, vous avez également sorti un magazine qui s'appelle Sipiz, qui est à destination des plus jeunes, plutôt ados, jeunes adultes. C'est ça, c'est plutôt sur
plutôt
la culture.
Pour cibler le public étudiant, en particulier de la Somme, hein, puisqu'on a une grosse université à Amiens.
Et là, pour les formats TikTok, Facebook, c'est-à-dire que vous avez réappris les codes des réseaux sociaux, vous vous formez à ça. C'est en interne, non? C'est vous bricolez?
Ouais, c'est un peu... la journaliste qui prend en charge Sipiz s'occupe aussi un petit peu de TikTok. Ce sont les gens qui s'occupent d'animer le site internet, hein, principalement, qui s'occupent de ça. Les réseaux sociaux, je vais vous dévoiler un secret, il y a une partie des publications qui sont générées automatiquement, en particulier sur Facebook. Twitter, je crois que c'est encore un compte très humain pour... schématiser. Et puis nous, on essaye d'apprendre les codes. Hein. On a 30, 40, parfois plus de 50 ans. Ce n'est pas forcément des choses avec lesquelles on est très à l'aise. Donc on se forme régulièrement.
Et d'ailleurs, vous lisez les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Comment on parle souvent de cyberharcèlement, ce genre de choses. Comment on gère un peu les commentaires qu'il y a? Comment, à quel moment on les efface? À quel moment la liberté d'expression s'arrête?
Alors, si les publications sont automatiques, c'est nous qui faisons notre propre modération sur nos pages Facebook en particulier. Alors, il y a une partie qui est faite automatiquement aussi dès qu'un certain nombre d'occurrences sortent et de manière appuyée, etc. Le modérateur professionnel va lui considérer que c'est une forme de harcèlement, donc il l'enlève. Mais bon, voilà, il y a encore des choses qui réussissent à passer malgré ça. Les commentaires racistes, on les efface systématiquement. C'est illégal. Enfin voilà, la personne qui fait ce type de commentaire contrevient à la loi. Donc nous, on enlève ça. On peut choisir aussi de fermer aux commentaires sur un certain nombre de sujets qui vont nous sembler sensibles, pour ne pas justement avoir à faire ce travail de modération, puisque c'est fait par les journalistes et que les journalistes dans leur journée Ils font aussi un peu autre chose.
Ils dorment la nuit, j'imagine.
Ça arrive.
On vous a vu récemment sur le vélo, sur un article sur les vélos taffeurs. Vous avez fait des vidéos. Pareil, la vidéo, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, maintenant, on peut faire des vidéos avec notre smartphone. Vous avez aussi appris les codes de la vidéo. Comment, il y a une formation en interne ?
Oui, on a tous été formés à la vidéo aujourd'hui. Quelqu'un qui va lire un article sur Internet va passer 40%, je crois, de temps supplémentaire sur l'article s'il y a une vidéo, le temps qu'il regarde la vidéo, tout simplement. Donc, on s'y est mis aussi. C'est une nouvelle corde à notre arc.
Une question dans le public ? Ouais.
Bonjour, je m'appelle Juliette. Je voulais savoir s'il y a beaucoup de concurrence avec les autres journaux.
Ah oui. Et oui. Alors, savez-vous que l'Oise est un département qui a une situation concurrentielle absolument unique. Je crois qu'il y a un autre département en France qui a à peu près la même chose. On a donc deux quotidiens dans le département. Il y a un certain nombre d'hebdomadaires.
Là, les quotidiens, c'est pour vous,
c'est
le
Parisien
et le Courrier Picard.
Le Parisien, le Courrier Picard. Après, il y a des hebdomadaires, Oise Hebdo, le Bonhomme Picard, l'Éclaireur Brayon, l'Observateur de Beauvais. Bon, j'en oublie, mais il y en a plusieurs. On a aussi France 3 Picardie qui est présent. Il y a aussi, enfin, ça doit être France 3 Hauts-de-France maintenant. Il y a France Bleu. On est aussi très proche de la région parisienne, donc on a parfois des médias nationaux qui viennent jusque chez nous. Donc il y a une vraie concurrence et on s'entend tous très bien entre journalistes. Ceci dit, on aura toujours envie d'être les premiers à sortir une information.
Évidemment, c'est la grande course à l'information. Une autre question ?
Bonjour, moi c'est Inaya. Ma question est, avez-vous une anecdote qui vous a marqué pendant votre métier ?
Alors là, de quel type d'anecdote ? Parce que...
Ça peut être tout, hein, soit heureuse ou malheureuse. Hein,
Alors j'avoue que là, je suis un peu embêtée, je ne sais pas répondre à cette question.
C'est quoi, pour vous, l'article qui vous a le plus marqué ? Ou c'est quoi le premier article ? L'article le plus important en termes d'importance nationale ?
Alors, je crois que il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Le premier, évidemment, c'est le premier qui a été publié dans un vrai journal. J'ai écrit dans le journal de mon lycée. Bon, c'était sympa, mais il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. On écrivait, quand on était en formation de journaliste, on écrivait à un journal, mais qui n'était diffusé qu'au sein de notre université. Donc, c'est pareil, il n'y a pas énormément d'enjeux. Par contre, le jour où mon premier article est sorti dans un journal, en plus, c'était dans la région dont je suis originaire, la Normandie. Donc, mes parents l'ont lu, etc. Donc, là, d'un seul coup, voilà. Celui-ci, il est forcément... marquant. Pour tout vous dire, il s'agissait d'un article sur Noël et ce que mettaient les gens, quelle était la tendance des décorations de sapins de Noël. Voilà.
Est-ce qu'on appelle un marronnier, en fait
Tout à fait, et qu'on confie très généralement aux stagiaires quand ils viennent d'arriver dans une rédaction. Donc voilà, ça m'est arrivé aussi. En fait, comme on sort des articles tous les jours, c'est assez difficile de dire lequel est vraiment marquant. L'année dernière, il y a peut-être le vélo taf, on en parlait tout à l'heure. Voilà, ça, j'y ai passé beaucoup de temps, je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est un article qui est marquant. Et puis la semaine prochaine, je vais peut-être faire autre chose.
Du coup, vous êtes devenue vélo tafeuse.
Je l'étais déjà un petit peu.
D'accord,
avant.
C'est ça. Alors justement, la question, c'est est-ce que il y a des articles qui vous ont fait changer de point de vue ? Est-ce que en ayant rencontré des gens aujourd'hui, on parle, je sais pas, des éoliennes, du canal Seine-Nord, là, du vélo taf. Est-ce que du coup, le journaliste s'implique un peu plus et puis vous avez changé d'avis ou justement vous êtes conforté dans ce que vous pensiez déjà ?
Il y a des choses sur lesquelles on apprend. Et où on va peut-être effectivement prendre conscience de l'importance que ça peut avoir dans la vie des gens, parce qu'on n'y est pas, confronté. C'était quoi la question ?
La question, c'est de savoir si du coup les articles vous confortaient un petit peu dans vos retranchements.
Hein. Oui, ça peut nous arriver. Aujourd'hui, l'urgence climatique, c'est une vraie question. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. On ne sait pas toujours forcément comment l'aborder pour intéresser les gens, pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a une urgence à agir. Et en écrivant, on peut effectivement parfois prendre conscience que certaines choses... je sais pas, les oiseaux, par exemple, qui sont moins nombreux parce qu'il y a moins d'insectes, il suffit parfois de discuter avec des spécialistes pour prendre conscience de l'ampleur que ça
a. Oui, il y a beaucoup moins d'hirondelles qu'il y a 20 ans.
Par exemple.
Mais... Pour revenir sur le marronnier, pour expliquer un peu aux élèves qui sont avec nous et aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un marronnier dans la presse. Un marronnier, en général, c'est un arbre qui donne des marrons. Luberon, mais dans la presse, c'est quoi ?
C'est un article saisonnier. C'est un article qu'on refait tous les ans à la même période. Noël, qu'est-ce que vous allez acheter à vos proches pour leur faire plaisir ? L'été arrive, nos meilleurs spots pour aller vous baigner ? Où c'est autorisé, par exemple. Voilà, c'est des articles saisonniers.
La rentrée scolaire, évidemment.
La rentrée scolaire, le coût de la rentrée scolaire.
Les courses de la rentrée scolaire.
Exactement.
Une question encore dans le public ? Encore une question ?
Bonjour, moi c'est Inaya. Que faut-il faire comme étude pour être journaliste et quelle matière il faut être fort ? Dans quelle matière faut être fort ?
Est-ce qu'il faut être bon en orthographe déjà ?
Ouais. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, il faut être un peu bon partout. Aujourd'hui, la crise du Covid, la crise climatique, etc., nous apprennent qu'on a besoin d'avoir des journalistes qui sont bons en sciences. Donc, c'est pas parce qu'on aime les maths qu'on ne pourra pas être journaliste. Il faut aussi savoir cultiver sa différence. C'est-à-dire que si on parle une langue couramment, bah, c'est drôlement bien de pouvoir continuer à la pratiquer pour pouvoir l'utiliser après. Il faut être super curieux. Jamais considérer que ce qui se passe devant soi est normal. Il faut que ça éveille quelque chose en nous et éventuellement ça peut donner lieu à des sujets.
Une autre question ? Dernière question avant une pause musicale ?
Bonjour, moi c'est Maë. Est-ce qu'il est difficile de recruter des journalistes ?
Alors, des journalistes, il y en a plein. Il y a de plus en plus d'écoles de journalisme. Il y en a un certain nombre qui sont reconnus par la profession, c'est-à-dire que les journaux considèrent que la formation qui y est dispensée est conforme à ce qu'on attendra d'eux une fois qu'ils seront sur le marché du travail. Et puis, il y a des écoles privées. Donc, on forme beaucoup de journalistes. Est-ce qu'ils restent très longtemps ? Pas toujours, parce qu'il y a des contraintes dont je vous parlais tout à l'heure.
Et puis ils voyagent souvent, ils font d'autres éditions. Enfin voilà, par exemple, s'ils restent au Coin Picard.
Dans les rédactions parisiennes, dans les bureaux pour traiter de la dépêche web, il y en a beaucoup. Et il y en a qui se font des rêves. Je vais voyager, je vais rencontrer des gens importants. Et puis qui se retrouvent enfermés dans un bureau à Paris. Je ne veux pas dénigrer ce qu'ils font, c'est très très bien. Il faut tout. Mais il y en a parfois qui sont un peu déçus.
Un voyage dans le Santerre, c'est quand même vachement mieux.
Oui, il faut pas. La PQR parfois est un peu dénigrée. Moi, je trouve qu'on est au plus proche des préoccupations des gens, et la plupart des médias nationaux aujourd'hui vont se nourrir de ce que fait la PQR pour alimenter leur sujet ensuite.
Alors justement, avant de partir en pause musicale, comment ça se passe avec la presse nationale ? Puisque c'est vrai que souvent les articles viennent de la PQR, viennent du local, viennent des radios locales. Elles remontent en national avec pas forcément qui a sourcé, d'où ça vient. Comment ça se passe chez vous avec TF1, France 2, l'édition peut-être nationale de France 2, M6, etc.
Alors c'est parfois hyper frustrant parce que des gens qui n'ont pas voulu nous parler, par exemple, vont accepter de témoigner parce que c'est la télé. Bon, ok, c'est le jeu, on l'accepte. Ça se passe plutôt bien quand nos confrères nous citent, quand ils disent que l'information, elle vient du Courrier Picard. Là, ça se passe très bien, puis ça donne un écho tout à fait différent à ce qu'on a fait. On ne va pas bouder notre plaisir. Mais ça peut aussi parfois être assez frustrant. Le journaliste qui vient d'une chaîne nationale, il va se déplacer une fois dans la région. Il va falloir qu'en quelques heures, il appréhende tout. Des fois, il nous appelle pour qu'on les aide un peu à cerner le problème. Puis après, ils vont partir, ils vont passer à autre chose. Nous, on reste après avec les gens et on va continuer, dans le cadre d'un fait divers, par exemple, continuer à les suivre, à les voir régulièrement. Et puis, il peut y avoir un lien comme ça qui se crée, qui ne sera peut-être pas le même avec un journaliste national.
On va écouter un extrait musical de, pas de la programmation, c'est un titre qu'on passe juste pour cette émission. C'est le titre d'Orange Street, Oh Please.
Stay here. I need you town.
Radiographie de 94.9, la matinale, en toujours en compagnie du collège Compère Morel de Breteuil. On est en public, vous pouvez vous signaler, applaudir, qui ont déjà posé plein de questions à Oriane, donc chef d'édition de l'Oise, pour parler de son métier, mais également un peu du journal, du Courrier Picard. C'est quoi l'avenir du Courrier Picard? Est-ce que c'est le tout numérique? Est-ce que le papier a encore de l'avenir, d'après vous?
Le papier s'éteindra peut-être un petit peu plus rapidement qu'on l'avait escompté. L'avenir, c'est le numérique aujourd'hui. Les gens consomment de l'information sur les sites internet.
Tout à l'heure, on l'a dit en début d'émission, vous avez fait un IUT communication. Est-ce que des fois, vous avez envie d'être attiré par la communication, d'être embauché par une collectivité, avoir de faire des 8h, 18h et d'avoir vos week-ends?
Non, la passion que j'ai pour mon métier, c'est aussi cet imprévu, pas savoir à quoi va ressembler ma journée le matin quand j'arrive. Je crois que ça apporte un peu de sel. J'aime pas trop la répétition, justement, donc je crois que je m'ennuierai un petit peu dans la com.
Comment aujourd'hui, alors les lecteurs peuvent vous contacter, il y a toutes les informations sur Internet et également dans le journal, mais si demain on veut devenir correspondant de presse ou si on a un stage à faire dans le journalisme, comment on signe ou on sonne chez vous?
Eh ben, on nous appelle, on a un numéro de téléphone qui est présent dans le journal. On nous appelle, on vous reçoit. Pour faire un stage, il faut quand même être conventionné par un établissement scolaire, puisqu'il y a des problèmes d'assurance qui se posent. Pour être correspondant, il faut être majeur et avoir un véhicule. Et puis, un ordinateur et de quoi faire des photos. Et on fait un essai. Et si tout se passe bien, on reste correspondant. Il faut avoir à l'esprit quand même que c'est un peu... ça demande un peu de temps, d'investissement, d'être correspondant. C'est pas simple. simple d'écrire un article. Quand on a un peu d'expérience, ça va plus vite, mais ce n'est pas forcément hyper facile la première fois.
Et pour le public qui nous écoute, les associations, les particuliers, à quel moment une information devient intéressante pour un journal et à quel moment on doit vous la communiquer? Est-ce que si on fait notre conseil annuel avec les animateurs, est-ce qu'on doit vous inviter? Qu'est-ce qui est une bonne information pour vous?
Alors, une information va être intéressante pour le journal à partir du moment où elle ne va pas concerner que les personnes qu'on va aller voir. Si vous faites votre réunion annuelle des animateurs, je ne suis pas certaine que ça passionne les foules. En revanche, si vous organisez un festival de théâtre de rue un samedi après-midi dans les rues de Compiègne, là, oui, ça peut nous intéresser parce que ça va concerner davantage de monde.
C'est la fin de cette émission. Je crois qu'il y a une dernière question. Fin d'émission, on va se quitter en musique avec un extrait toujours d'Orange Street. Mais avant de vous quitter, on vous rappelle que du coup, vous pouvez retrouver cette émission sur le www.graphite.net. On retrouve le courrier Picard dans les kiosques. C'est combien aujourd'hui le courrier Picard?
Ah, on connaît plus d'un euro.
1,40€.
1,30€.
1,30€.
On a augmenté, ouais, à cause de l'augmentation du prix du papier.
C'est vrai que le prix du papier aussi, on aurait pu en parler, mais il y a une forte augmentation sur le prix du papier. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés, et puis on vous donne rendez-vous très prochainement. Et c'est vrai qu'on ne vous l'a pas annoncé, mais on va vous proposer à partir de la rentrée un festival des médias de l'information. C'est en construction, donc vous pourrez rencontrer des journalistes, discuter avec eux, aussi bien de la PQR que le National. On construit ça, on vous en reparlera très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon après-midi, bon courage.